C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Et oui, c'est l'heure de jouer tous les jours à 9h30. Je vous propose maintenant une petite balade aux enfers. Oui, vous allez me dire, il y a mieux pour faire une promenade, c'est sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez encore vous en sortir vivant, tous. Non, bien sûr, seulement ceux qui vont réussir à prendre une barque. Voici Cerber, un classique, ce jeu de Pierre Buti, co-édité par la boîte de jeux et Ori Games, va fêter ses 3 ans. Alors Cerber est un jeu semi-coopératif. Pourquoi semi ? Bah, car parfois vous allez vous aider, mais parfois vous allez vous trahir et vos amis du début ne seront peut-être pas ceux de la fin. Je suis désolé Karine, mais je vais devoir te laisser te faire dévorer par Cerber. Il n'y a que 2 places dans la barque et il y a déjà Pascal. Je sais, tu m'as bien aidé, mais c'est comme ça. Adieu. Bon allez, promis, vous allez vous réconcilier au moment de l'apéro. Allez, mise en place très rapide, vous placez le plateau de départ suivi de 2 plateaux intermédiaires au choix. Plus il y a de crânes illustrés en haut à gauche du plateau, plus le niveau est difficile. Vous terminez par le plateau de fin où vous placez face cachée les 3 barques mélangées, une avec une place, une avec 2 places et la dernière avec 3 places. Attention, la barque située sur le premier emplacement est la barque active. Chaque joueur récupère des cartes pour faire ses actions et son meeple aventurier. N'oubliez pas de choisir la vitesse du dé pour Cerber avec un minimum de 5 si vous jouez à 3 joueurs et de le placer sur la piste de rage. Puis on fait une pioche avec les cartes survie pour les aventuriers et une pioche trahison pour les joueurs qui rejoindront Cerber. Et oui, certains n'auront pas le choix si Cerber vous a rattrapé, vous êtes malheureusement obligé de le rejoindre. Pour les autres, dépêchez-vous de traverser les enfers et de rejoindre une barque. Mais alors comment on joue ? À votre tour, vous allez faire une action obligatoire en jouant une de vos cartes. Vous verrez que le côté recto, c'est la face aventurier et le verso, c'est la face de Cerber. En début de partie, vous ne jouez qu'avec la face aventurier. Jouez une carte action et choisissez un des 2 effets indiqués. Parfois, il y aura un coût à payer. La carte jouée est dans votre défausse. Vous pourrez récupérer votre carte défaussée avec l'un des effets d'une carte, par exemple. Parmi les actions possibles, vous avancez, pas forcément, mais vous pouvez aussi faire avancer vos copains, mais aussi les faire reculer ou faire reculer vous-même. Une deuxième action possible permet de jouer une carte survie que vous aurez récupérée en cours de chemin. Alors, dans vos actions, vous aurez peut-être fait avancer cette créature à 3 têtes. Alors, si le dé de vitesse atteint la case chasse, Cerber se déplace du nombre de cases indiquées par la face du dé vitesse. Si Cerber ne rattrape aucun aventurier, bah, sa colère va augmenter. Il n'est pas content, hein. Il faudra augmenter de 1 la valeur du dé de vitesse. La prochaine fois, il ira donc plus vite. En revanche, ah oui, s'il attrape un aventurier, peu importe. S'il devait se déplacer de 4 cases, il s'arrête immédiatement et récupère l'aventurier avec lui. Il le ramène sur la piste de rage et le capture. Cerber retourne sur la case et le dé vitesse est de nouveau placé sur la plus petite vitesse choisie en début de partie. Pour le ou les joueurs capturés, vous allez maintenant rester avec Cerber aux enfers. Mais Cerber ne vous dévore pas, il vous accorde sa clémence. Ah, vous allez faire partie de son équipe. Vous jouerez désormais avec les cartes côté verso face Cerber et les cartes trahison. En revanche, parfois vaut mieux être capturé tôt car les aventuriers capturés sur le plateau de fin perdent la partie à coup sûr. Tout comme ceux d'ailleurs placés sur les cases blanches de la piste de rage. Et oui, Cerber ne veut pas trop de monde non plus avec lui. Vous verrez que certaines cases du plateau ont des particularités. Exemple, le pont en bois s'écroule une fois qu'un joueur l'a traversé, les autres devront faire un détour. Du coup, Cerber il pourra peut-être arriver plus vite. Et comment ça se finit tout ça ? Si un joueur atteint une des cases du plateau de fin, on révèle la barque active. Si à la fin du tour d'un joueur, toutes les places de la barque sont occupées, les occupants gagnent la partie. Cerber et les joueurs qui ont obtenu sa clémence remportent la partie si tous les aventuriers sont capturés ou s'il ne reste plus suffisamment d'aventuriers pour remplir la barque. Cerber a une bonne rejouabilité avec ses différents plateaux et permet aussi de monter en difficulté. Une extension, les trésors de Cerber sortis l'an dernier, ajoutent des nouvelles cartes, des nouveaux plateaux et des trésors pour les aventuriers. Mais on en parle d'ici quelques minutes avec Benoît Bagnier, qui est donc le responsable de la boîte de jeu. Pour la musique, c'est Coldplay avec Higher Power sur Millennium.
C'est ludique. L'invité de la semaine.
Et mon invité cette semaine, c'est Benoît Bagnier de la boîte de jeux. Bonjour Benoît.
Salut.
Alors, je viens de présenter Cerber à l'instant, qui va avoir 3 ans. C'est le jeu qui a le plus de succès aujourd'hui.
Dans le monde ?
Non, pas dans le monde. Pour la boîte de jeux en France.
Non. Pour la boîte de jeux, c'est It's a Wonderful World. Ouais. Cerber arrive juste derrière. En tout cas, en France, il arrive. Peut-être même devant en France. Après, mondialement, c'est plutôt It's a Wonderful World.
D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter justement rapidement la boîte de jeu ?
Bah, la boîte de jeux, c'est un éditeur qui a 8 ans. Oui, ça doit être ça. Qui a démarré un peu naïvement avec avec des amis du lycée. Et puis depuis, bah maintenant on est 6 personnes. On a édité quand même une quinzaine de jeux, je dirais. J'ai pas compté, mais voilà, et ça marche plutôt pas mal.
Alors, on va revenir sur Cerber, et puis après, on parlera du travail aussi d'édition. Alors, sur Cerber, on est sur du semi-coopératif. C'est un jeu où on va pas se faire que des amis. Hein.
C'est ça, Cerber, c'est un jeu, en tout cas, où il faut collaborer, mais pas jusqu'au bout, ou pas tous, hein, parce que tout le monde pourra pas s'en sortir. Donc, voilà, c'est semi-coopératif, on peut dire ça, oui.
Alors, l'an dernier, vous avez sorti une extension. Qu'est-ce qu'elle apporte au jeu ?
Alors l'extension, elle apporte des nouveaux plateaux pour varier un peu les parcours pour ceux qui avaient pas mal joué. Donc des plateaux à la fois plus faciles pour ceux qui avaient du mal à s'échapper des enfers et des plateaux plus durs pour les groupes qui étaient plus coopératifs du coup, parce que souvent ils arrivaient plus loin et ils arrivaient à échapper à Cerber.
Ouais.
Et en plus, y a une nouvelle mécanique sur les trésors. Donc c'est des cartes qu'on peut utiliser à son tour et qu'on va passer en fait aux joueurs après soi, donc qui permettent d'avoir des actions spéciales qu'on se passe autour de la table.
Est-ce que ça veut dire que tous les bons jeux aujourd'hui ont des extensions pour prolonger la vie du jeu finalement ?
Alors je sais pas si tous, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait dans l'édition. Il y a deux façons de faire. Soit au départ on a beaucoup d'idées sur un jeu et on se dit bah ça va être trop parce qu'un jeu, voilà, si ça peut être un peu trop touffu au départ, donc
ouais,
il faut quelque chose d'assez resserré et on garde des choses pour l'extension, ou alors tout simplement un jeu fonctionne bien et les joueurs ont envie de nouveautés, de suite, et donc on travaille à des extensions avec l'auteur. Là c'est plutôt ce qui s'est passé sur Cerber.
D'accord.
Puisqu'elle est sortie quand même quasiment 2 ans après l'extension.
Ouais.
Donc voilà, donc c'est aussi une façon de faire vivre le jeu et d'apporter du contenu aux joueurs qui aiment y jouer.
Et quand un jeu cartonne comme ça, est-ce que l'idée c'est de l'exporter ? Dans combien de pays aujourd'hui est Cerber ?
Alors Cerber, j'aurais pu préparer, il y a 5-6 pays, principalement en Europe.
D'accord.
Et au Japon après.
Ouais.
Le Japon c'est quand même un marché du jeu qui est plutôt vivant.
Ouais.
Voilà, et oui, effectivement, alors dès le départ, de toute façon, dès qu'on fait un jeu, on réfléchit à l'export, donc avec notre distributeur qui est BlackRock, on travaille toujours pour présenter les jeux à un maximum de partenaires étrangers, et après, bah, c'est eux qui font les choix de l'éditer ou pas dans leur pays, en fonction de s'ils pensent que ça peut marcher ou pas.
Alors, Cerber n'est pas édité, je crois, aux États-Unis.
Non.
Est-ce que du coup, j'ai lu ça, ça veut dire qu'une critique de quelqu'un de connu peut nuire au succès d'un jeu ?
Oui, alors il y a eu différentes problématiques à l'édition de Cerber aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on l'a réservé très longtemps pour un éditeur américain,
ouais,
qui était super emballé et qui a voulu le faire, entre autres. Puis juste quand ça devait se conclure, en fait il a été racheté.
D'accord.
Et donc tous les projets ont été annulés, et là c'est compliqué parce que quand on a refusé différents partenaires pour un partenaire en particulier et qu'ensuite il dit non et les autres ils sont passés à autre chose, il s'est passé un an. Voilà, donc ça a été le premier problème. Et le deuxième, ça a été effectivement quand on revient et qu'entre-temps, même s'il y avait des très bonnes critiques, il y a une critique d'un gros reviewer américain qui est négatif sur le jeu, bah voilà, ça fait que le jeu il est un peu plus vieux, les autres ils sont passés à autre chose et en plus ils ont ce truc de dire « Ah oui, mais il y a cette critique, donc non ». Donc effectivement, il n'est jamais sorti aux États-Unis.
Ah bah c'est bien dommage, en tout cas, pour les Américains. Qu'est-ce qu'on lui reprochait, finalement ? Ils ne sont pas semi-coopératifs ? Ils sont pas...
Il y avait plusieurs choses. C'est vrai qu'en France, c'est les jeux un peu comme ça, où il y a un peu de trahison. C'est des jeux qui sont toujours plaisants. On peut penser à Galerapagos, par exemple, qui est vraiment un peu un pendant de Cerber. Mais à l'étranger, c'est pas toujours simple. Les marchés sont tous différents, les attentes des joueurs toutes différentes. Et aux États-Unis, ce côté trahison était pas vraiment dans le, je sais pas comment dire, dans l'air dans ce qu'ils aiment. Donc c'était un peu plus compliqué à vendre. Et puis après, il y a la thématique aussi qui peut être très parlante pour nous. On est un pays comme qui connaissons bien la mythologie grecque et romaine.
C'est vrai que oui, aux États-Unis.
Et c'était un peu moins moins connu dans certains pays. Et puis après, bah, il y avait le côté enfer aussi, où, voilà, suivant les cultures, c'est pas toujours, toujours parlant.
C'est un travail de coédition. Comment vous fonctionnez d'ailleurs avec Origames ?
Alors, on a plusieurs gens en coédition avec Origames, effectivement. Bah, ça dépend un peu des projets. Ici, sur Cerber, c'était un projet qui avait été repéré par Origames. Mm-hmm. Donc, c'est eux qui me l'ont montré. Qu'on décide de faire ensemble, parce que voilà, on travaille bien ensemble. Et puis après, bah, souvent, très schématiquement, moi, je vais m'occuper du développement, donc de la partie gameplay avec l'auteur.
Ouais.
Donc, d'approfondir le jeu, de faire des choix. Et puis, eux, ils vont s'occuper de la partie design graphique, c'est-à-dire le travail avec l'illustrateur, la mise en page du jeu, en fait.
D'accord.
La boîte, la couverture, etc. Et puis après, moi, je vais reprendre la main, effectivement, dans la partie commercialisation.
Donc, vous faites... C'est un partenaire de longue date, Origames.
Oui, on travaille avec eux depuis 2015-2016. En fait, au début, en tant que packager, ils avaient fait... packager, c'est-à-dire des gens qui nous accompagne dans la mise en place des fichiers,
ouais.
Une sorte de travail de graphiste, en gros, pour faire très très schématique. Ils avaient fait Outlive avec nous, enfin juste en tant que prestataire, donc. Et puis après, on avait commencé à faire des jeux ensemble, Ilos, Clash of Rage, It's a Wonderful World, Cerber. Voilà, donc on a fait pas mal de projets ensemble, It's a Wonderful Kingdom aussi.
Alors, donc au niveau du travail d'édition, il y a aussi, on va dire, le choix. C'est-à-dire, vous faites souvent le choix à la boîte de jeu de lancer vos jeux sur Kickstarter. Pourquoi ?
Alors, bah, c'était pas le cas de Cerber, par exemple.
Non, pas de Cerber, mais...
on fait des Kickstarter. Alors, il va y avoir plusieurs réponses à ça. On a commencé Kickstarter quand on était une petite société. C'était une façon de financer nos projets, puisqu'on n'avait pas forcément les fonds. Aujourd'hui, c'est plus du tout à fait la même logique. On va s'en servir comme à la fois de la pré-vente et à la fois aussi une façon de vendre des jeux dans le monde entier. Puisqu'effectivement, bah, c'est tourné vers le monde. C'est un site en anglais, on fait la page en anglais, etc. Donc, ça nous permet de toucher beaucoup de pays. Et donc, quand on arrive à l'export, comme je disais, quand on vient présenter les jeux, ils ont déjà une petite aura dans chacun de ces pays, et ça permet d'avoir des partenaires un peu plus intéressés, ou beaucoup plus intéressés, suivant les projets. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ça va aussi pouvoir correspondre à des typologies de jeux qui ont besoin des fois de matériel un peu compliqué et qui pourraient être assez compliqués à financer dans le circuit classique. Bon, on va pas faire toute l'économie du jeu, mais aujourd'hui, en tant qu'éditeur, dès qu'on est sur du jeu un peu lourd, on a des volumes qui sont du gros jeu.
Ouais.
Typiquement, notre dernier Kickstarter, c'était avant It's a Wonderful Kingdom, qui est pas encore livré, mais celui d'avant, c'était Demio.
Demio, ouais.
On est sur des jeux assez chers, on est sur des volumes qui sont en fait assez faibles, en réalité, mondialement. Et du coup, pour rentabiliser ce type de jeu, pour avoir la possibilité de les faire, en fait, tout simplement, et de payer les gens qui les font, c'est un modèle qui permet en fait en faisant une partie de vente directe de pouvoir faire ce type de jeu.
Ça permet par exemple pour Damio de sortir un pack avec plein de figurines.
Voilà, mais même de sortir le jeu en fait, tout simplement. Ouais. Des gros jeux comme ça à 50€, en fait on n'en vend pas tant que ça en boutique. Et ils s'en vendent pas tant que ça en boutique.
Ah, la boîte de jeu est connue plus pour son côté expert. On a parlé de It's Wonderful World, de Damio, mais il y a eu Au creux de ta main. Est-ce qu'on cherche maintenant à la boîte de jeu à toucher un public un petit peu plus familial ?
Alors en fait, on n'a jamais vraiment choisi de faire des jeux experts. On avait commencé par un jeu, enfin pas tout au début, mais notre premier jeu qui a eu un peu de succès, c'était 10 Minutes to Kill. C'était un jeu qui était, on va dire, dans une gamme famille. Voilà, donc après on a fait effectivement des jeux experts. Mais même Cerber, c'est un jeu qui est quand même assez familial. En fait, on s'est jamais dit, tiens, on va faire de l'expert, et puis tiens, on va revenir vers la famille. Quand on voit un projet, bah, s'il nous plaît, on le fait. Là, l'année prochaine, ou peut-être l'année d'après, je sais pas encore, on va même avoir un jeu enfant.
D'accord.
On s'est pas dit, tiens, on va ouvrir toute une gamme de jeux enfants, en fait. C'est
ouais.
un projet qui nous semble correspondre à ce qu'on peut faire, à ce qu'on a envie de faire à ce moment-là. Et donc, bah, simplement, on le fait, et on se pose pas la question de savoir si c'est une gamme ou pas, ou si ça correspond.
Votre prochaine sortie, donc, c'est It's a Wonderful World pour deux joueurs. Est-ce que c'était une demande des joueurs de pouvoir jouer à deux ?
Alors, c'est It's a Wonderful Kingdom.
Kingdom, ouais, pardon.
Je ne sais pas si c'était une demande des joueurs, puisqu'en fait, It's a Wonderful World, le précédent, il se jouait déjà à deux. Par contre, en fait, c'est lié au fait que quand on a développé It's a Wonderful World, on disait le draft, donc une mécanique où on se passe les cartes, c'est pas forcément idéal à deux, même si au final It's a Wonderful World marche bien à deux. Et j'avais développé en lien avec Frédéric une petite mécanique spéciale, mais ça faisait presque deux jeux, donc on avait choisi de pas le mettre.
D'accord. Ah ouais.
Par contre, c'est suffisamment chouette pour qu'on travaille dessus, qu'on creuse et qu'on en fasse un vrai projet. Voilà, et c'est comme ça qu'est né It's a Wonderful Kingdom. Et donc aujourd'hui, on est très content parce que on l'a pas mal montré. Et souvent, les joueurs viennent en se disant ça va être un peu comme It's a Wonderful World. Et quand ils jouent, ils disent vraiment, c'est une
c'est
vraie
différent.
Proposition à part avec ses forces à part.
Et alors, du coup, la sortie est prévue quand? Alors, ça va être peut-être compliqué avec les bateaux, les machins, mais.
Là, on est sur, on va dire, début novembre.
Début novembre. Merci beaucoup, Benoît Bagnier, d'avoir été sur Millennium.
C'est moi.
Très bonne journée, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.